Est jusqu'en Alsace. Donc, voyez sur une partie extrême nord du pays, un ciel toujours très couvert. C'est couvert aussi dans le sud-ouest, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, avec des averses ce matin. Il y a tout de même une zone où le temps sera agréable. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas qu'au bord de la Méditerranée, mais c'est entre la région parisienne et le sud-ouest du pays. Alors là, ça sera agréable, dégager une bonne partie de la journée. Cet après-midi, le ciel sera nuageux sur la plupart des régions, sauf, je vous le disais, donc entre la région parisienne et les Alpes, en passant par la Bourgogne. C'est là que la journée sera la plus lumineuse. Profitez-en. Ce qui arrive pour le week-end, c'est un redout, mais avec de très grosses pluies et de très gros orages. J'aurai l'occasion de vous en reparler.
Merci Alissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
La menace terroriste pèse sur les Jeux Olympiques. Un adolescent de 16 ans, interpellé cette semaine en Haute-Savoie, il projetait un attentat pendant les Jeux de Paris. On vous explique dans ce journal. Des abattoirs clandestins, des égorgements sauvages. Chaque année, au moment de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, des pratiques illégales se développent. C'est une information Europe 1. À plus d'un mois de l'événement, le gouvernement a déjà mis les préfets en alerte. Dans ce journal également, la GPA, la gestation pour autrui, reconnue comme une traite d'êtres humains par le Parlement européen. On va tout vous expliquer. Et puis, il se trouve dans les yaourts, les rillettes, les plats préparés. Certains émulsifiants provoquent des risques accrus de diabète. C'est ce que démontre une étude menée sur plus de 100 000 personnes. Le journal de 5h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, les forces de l'ordre ultra mobilisées face à la menace terroriste, elles ont interpellé mardi un adolescent de 16 ans, radicalisé. Le jeune homme qui résidait chez ses parents en Haute-Savoie projetait de commettre un attentat pendant la compétition, Antoine Bienveau.
Oui, selon le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire, il s'agit d'un adolescent de nationalité française suivi pour radicalisation islamiste. Âgé de 16 ans, il projetait de commettre un attentat suicide dans le quartier de La Défense pendant les Jeux Olympiques. Les enquêteurs ont été alertés par des messages postés sur la messagerie cryptée Telegram. Le jeune homme y affirmait vouloir se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive. Dans ces messages, il disait également vouloir mourir en martyr au nom du califat islamique. Un document manuscrit d'allégeance à l'État islamique a d'ailleurs été retrouvé par les enquêteurs lors des perquisitions. Le suspect a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer le degré d'avancement de ce projet macabre avorté et procéder à une analyse psychologique du suspect pour déterminer si oui ou non cet adolescent était bel et bien prêt à passer à l'acte.
Antoine Bienveau.
À Montpellier, deux autres mineurs ont été mis en examen hier pour tentative de meurtre sur la jeune Samara.
L'adolescente âgée de 13 ans a été passée à tabac début avril à la sortie de son collège. Cinq mineurs sont désormais suspectés d'être impliqués dans cette agression. Tous sont par ailleurs interdits d'accès à leurs établissements scolaires dans l'attente de leur conseil de discipline.
Et puis à Grande-Synthe, dans le Nord, le troisième suspect dans la mort de Philippe Kopmann a été mis en examen.
Après plusieurs jours de garde à vue, cette adolescente de 15 ans a été écrouée hier alors que se déroulaient les obsèques de la victime. Des funérailles très émouvantes auxquelles n'a pas assisté le maire de Grande-Synthe, cible ces derniers jours de menaces de mort.
Europe 1 5h03, c'est l'un des temps forts du calendrier religieux musulman. L'Aïd el-Kébir va avoir lieu cette année entre le 16 et le 19 juin.
Et au menu de cette fête qui commémore le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, du mouton, 100 000 animaux sont abattus chaque année selon un rituel précis. Cependant, les dérives ne manquent pas. Abattage clandestin, égorgement sauvage, des situations qui entraînent régulièrement des saisies. C'est une information Europe 1. Le gouvernement a envoyé dès la semaine dernière ses consignes au préfet afin d'anticiper et d'éviter les tensions, William Molinier.
Une quarantaine de moutons agglutinés dans un HLM de Nice, des carcasses retrouvées sur la voie publique, des bêtes dans des boxes de garage. Ces scènes se sont multipliées l'année dernière à l'approche de l'Aïd el-Kébir. L'agneau tourné vers la Mecque doit être saigné à la gorge et vidé de son sang. À l'approche de cette fête très importante dans le calendrier musulman, les abattoirs légaux sont rapidement saturés, les prix s'envolent et des circuits parallèles se développent. Alors pour débusquer les structures clandestines, Gérald Darmanin a demandé la semaine dernière au préfet de s'organiser bien en amont dans un téléphone. télégramme qu'Europe 1 s'est procuré, il recommande notamment de prévoir des fourrières temporaires pour y stocker les bêtes illégales et de multiplier les contrôles sur les sites d'approvisionnement. C'est devenu quasiment impossible d'aller dans une cité quand le sacrifice a commencé, concède un policier. Trop de tension, le risque d'émeute y est trop fort. Tout se joue donc dans les semaines précédentes. Les bêtes saisies sont remises à la Fondation Brigitte Bardot. Selon l'Association de défense des animaux, 300 moutons ont ainsi été sauvés l'année dernière de l'égorgement sauvage, dont la moitié en Île-de-France.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
À la une de l'actualité également ce matin, la galère en vue dans les aéroports.
Oui, le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a bien levé son préavis de grève hier, mais trop tard. Le délai était trop court pour rétablir les liaisons annulées. Conséquence, 75% des vols supprimés à Orly aujourd'hui, 55% à Roissy et de nombreux aéroports régionaux impactés.
Marion Maréchal a une opinion bien tranchée au sujet de la gestation pour autrui, la GPA. Elle y voit une pratique monstrueuse et honteuse.
L'exploitation de la gestation pour autrui, désormais qualifiée de traite d'êtres humains, au même titre que le mariage forcé ou l'adoption illégale. C'est ce qu'a voté hier le Parlement européen. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Eh bien, l'exploitation de gestation pour autrui est désormais reconnue comme un crime au niveau de l'Union européenne, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée, c'est-à-dire un crime grave et de dimension transfrontalière. La directive cible en particulier les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à le devenir par la ruse. Concrètement, des sanctions seront prévues, notamment pour les entreprises qui tirent profit de cette pratique et qui sont donc reconnues coupables de ce trafic. Les États membres seront tenus de respecter l'objectif fixé par la directive, mais ils pourront choisir les moyens d'y parvenir. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les pays disposeront de 2 ans pour la mettre en œuvre.
Laura Van Lerberg.
Emmanuel Macron, de retour à la Sorbonne pour un discours sur l'Europe.
Oui, 7 ans après un premier plaidoyer pro-européen qui avait fait date, le chef de l'État veut faire le bilan de ce qui a été accompli et préparer le prochain agenda stratégique de l'Union européenne. Il s'agit aussi et surtout de relancer la candidature de la tête de liste Renaissance Valérie Ayée à la peine dans les sondages avec seulement 17,5% d'intention de vote selon une enquête IFOP pour le Figaro hier.
Il est 5h06 sur Europe 1. Vous prenez peut-être le temps parfois de bien regarder l'étiquette derrière les produits que vous achetez, et bien s'il y a une lettre qui n'augure rien de bon, c'est le E de émulsifiant.
Des additifs qui font l'objet d'une étude menée sur 104 000 personnes saines par l'INSERM et l'INRAE. Cette enquête publiée dans la revue Lancet révèle que plus on en consomme, plus on risque de développer un diabète, Yasmina Katou.
Oui, les additifs E406, E407, E340 par exemple, vous pouvez les retrouver dans les rillettes de thon Sopiquet, les yaourts hyperprotéinés iPro ou encore les plats préparés du géant Weight Watchers. Ce sont des émulsifiants, des additifs qui servent à améliorer la texture des aliments, à mélanger le gras et l'eau par exemple. Les fabricants pourraient donc se passer de ces ingrédients superflus qui, pour certains, augmenteraient de 15% le risque de développer du diabète de type 2. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM et coordinatrice de l'étude.
D'après les études expérimentales, une perturbation du microbiote intestinal a été démontrée avec certains émulsifiants. Perturbation du microbiote veut dire potentiellement une inflammation chronique, inflammation qui est retrouvée souvent comme mécanisme de base qui fait le lit finalement de maladies telles le diabète ou maladies cardiovasculaires.
Ces additifs seraient aussi associés à une augmentation du risque de cancer. Alors pour les éviter, la chercheuse recommande tout simplement de se tourner vers des produits bruts et de limiter la consommation des aliments transformés.
Yasmina Katou, le football et le PSG qui va devoir encore attendre pour célébrer sa victoire de la Ligue 1. Hier soir, les Parisiens ont bien battu Lorient 4-1, mais leur dauphin monégasque l'ont emporté sur Lille 1-0. Marseille s'en sort avec un match nul face à Nice de partout.
Merci Fanny Marceau, très bon réveil avec Europe 1. Il est 5h08, n'oubliez pas votre rendez-vous d'actualité avec Pascal Pro. Il vous donne 2 rendez-vous par jour. D'abord, l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews. Vous retrouvez ensuite Pascal Pro et vous de 11h à 13h avec son invité tout à l'heure.
Oui, invité exceptionnel, Jérôme Béglé pour les 75 ans de Paris Match. Paris Match en kiosque, un numéro spécial aujourd'hui avec en une la troupe du Splendide d'ailleurs. Et vous avez la parole.
Et comme tous les jours, chers auditeurs, vous pouvez réagir en effet en direct dans Pascal Pro et vous en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Europe 1, bonjour, il est 5h09. Dans un instant, la revue de presse internationale, Alexandre, avec les correspondants d'Europe 1.
Oui, nous serons au Liban, la presse libanaise s'intéresse au succès qu'enregistre l'armée israélienne dans sa lutte contre le Hezbollah. La moitié des combattants au Liban Sud auraient été éliminés. D'abord les courses avec Thierry Léger, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 102 Téhéran. Irrésistible lors de sa victoire le 30 mars sur l'hippodrome de Chantilly, alors qu'elle effectuait ce jour-là une rentrée après plus de 8 mois d'absence. Cette pouliche bien née, estimée et longtemps ménagée, engagée dans les prochaines courses classiques du calendrier épique français tel le prix de Diane, ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer avant de pouvoir viser plus haut. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp, réunion 1 dans la première course, le numéro 2, Téhéran.
Merci Thierry Léger, vous nous dévoilerez vos pronostics du quintet après le journal de 5h30 sur Europe 1. Bienvenue à tous, dans un instant, Ombline, l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
L'histoire d'un couple d'Américains qui gagne à la loterie, mais qui risque en même temps 30 ans de prison.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
La revue de presse internationale à 5h10 sur Europe 1. Nous partons donc d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles.
Bonjour.
Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Beyrouth où les médias suivent de près la guerre entre Israël et le Hamas. De quoi parle la presse libanaise ce matin ?
Et bien du coup porté par Israël au Hezbollah libanais. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, déclare que la moitié des combattants du Hezbollah au Liban Sud ont été éliminés. Selon lui, l'autre moitié se cache et abandonne le Liban Sud. C'est le quotidien L'Orient Le Jour qui rapporte ses propos. Ces derniers jours, les forces israéliennes mènent une action offensive contre le sud du Liban, rapporte ici Beyrouth. Ce média, plutôt opposé au Hezbollah, affirme que les affrontements entre la milice chiite et l'armée israélienne continuent de s'intensifier, faisant craindre une escalade. Le média du Hezbollah, Al-Manar, cherche de son côté à présenter le groupe chiite en position de force. Il affirme que des dizaines de missiles ont été tirés sur des positions israéliennes en réponse, selon lui, au crime de Hanin, durant lequel l'armée israélienne a visé un village libanais et tué deux civils, une femme et un enfant.
Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ?
Cette polémique de censure à la télévision publique, le monologue antifasciste que devait lire samedi soir l'écrivain Antonio Scurati, a été bloqué 24 heures avant le direct, écrit le Sole 24 heures. Et résultat, ajoute le journal, le texte est devenu viral. Il sera lu en public un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, jour anniversaire de la libération du régime fasciste et de l'occupation nazie. Selon l'écrivain, cité par le quotidien Avvenir, la décision de cette annulation est due à des motivations éditoriales. L'opposition s'en prend donc au premier actionnaire de la RAI, le gouvernement. Mais qu'affirme Antonio Scurati pour mériter cette censure ? Il poste, rappelle que le monologue définit Fratelli d'Italia, le parti de la Première Ministre, comme groupe post-fasciste et l'accuse de vouloir réécrire l'histoire sans reconnaître la résistance et l'antifascisme.
On retrouve enfin au Brésil notre correspondant Jean-Claude Gérez. De quoi parle la presse brésilienne ce jeudi ?
De l'intérêt croissant d'organisations criminelles pour le trafic des pierres des vésicules biliaires de bœufs et de vaches. Le calcul biliaire bovin, appelé pierre de bœuf, est rare et précieux, explique le site Géon, et vaut jusqu'à 3 fois le prix du gramme d'or. Ce joyau est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, rappelle Métropole, notamment pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Des centaines de bœufs ont été massacrés en 2023 au Brésil, souligne Canal Rural, car trouver des calculs biliaires bovins, généralement présents chez les bêtes les plus âgées, est un processus laborieux et qui demande de la chance. En moyenne, indique au Globo, 200 000 têtes de bétail doivent être en effet abattues pour essayer d'obtenir 1 kilo de pierre de bœuf.
Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, il est 5h13.
À suivre dans Europe 1, bonjour, Ombline Roche. Les initiatives en France, avec vous.
Oui, avec ce matin une application qui redonne le goût de la lecture aux enfants et éveille leur imagination.
Europe 1.
Bon réveil ce jeudi matin avec Europe 1, 5h13. Votre histoire dingue, Anissa Dadi. Alors c'est vrai qu'on en parlait il y a quelques jours encore sur Europe 1. Il se trouve que les Français sont de plus en plus nombreux à jouer aux jeux de hasard.
75% des Français ont au moins joué une fois à un jeu de hasard ou d'argent. Alors les jeux d'hasard ou d'argent, c'est le loto, c'est les jeux à gratter, c'est les paris sportifs, voilà, ça comprend tout ça. Mais attention, hein, que si vous tentez votre chance, c'est bien. Mais ne faites pas comme ce couple d'Américains, parce que là, il y a de quoi dire.
Sortez le pop-corn, voilà votre histoire dingue.
Un couple de trentenaires sans histoire qui avait l'habitude de prendre des jeux à gratter se retrouve dans une position très délicate. Très récemment, la chance tourne. Le couple gratte son ticket et gagne 1 million de dollars. C'est
donc
quand même
à peu près autant en euros.
900 et quelques mille euros. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, presque. Parce que plutôt qu'un gros chèque qui aurait pu changer leur vie, ce couple pourrait être condamné à 30 ans de prison. Mais que s'est-il passé? Ben, je crois qu'on peut dire qu'ils sont touchés par le vice du jeu. Ils ont tenté le tout pour le tout au point de tricher.
Ah oui, la triche est prise 30 ans de prison, c'est très au sérieux.
Je pense qu'ils avaient vraiment besoin d'argent, donc ils jouaient très régulièrement au jeu à gratter. Et là, ils se sont dit, alors, on va tricher, mais comment tricher? Parce que c'est quand même, ces jeux à gratter, ils sont quand même très sécurisés.
Oui.
Eh bien, nos deux faussaires apprentis ont une idée plutôt originale, mais enfin pas très maligne. Ils ont tout simplement collé le haut d'un billet à gratter gagnant avec le bas d'un billet à gratter gagnant qu'ils avaient gagné. Ils ont gardé, vous voyez, ces billets. Ils les ont coupés dans le sens de la hauteur et ils ont assemblé le haut et le bas ensemble. Bon.
Ça me fait penser à la falsification d'un bulletin de notes.
C'est un peu le même principe. Sauf que quand on se lance dans ce genre d'opération, bah, faut être très doué et faire en sorte que ça ne se voit pas. Vous l'avez compris, notre couple d'Américains n'a pas fait dans le détail.
Oui.
Le 1er mars dernier, Kira s'est donc rendue au bureau de la loterie où l'on récupère les gains. Parce que ça se passe comme ça, on récupère pas les gains au bureau de tabac. On va dans un bureau spécial de la loterie. Aux États-Unis, la procédure est un petit peu plus longue qu'en France parce que vous donnez votre ticket de jeu. Vous remplissez un formulaire avec tous vos renseignements personnels et vous êtes contacté sous 6 jours. Bonjour Monsieur le Maire, nous avons bien votre dossier. Nous vous confirmons le 1 million d'euros.
Ah bah
venez récupérer votre chèque. Voilà. Normalement,
il faut déjà que je joue.
Normalement, ça se passe comme ça. Voilà, ils mettent 6 jours à peu près à vous recontacter. Kira a donc fait toutes les démarches avec son faux billet. Le couple a été recontacté 10 jours plus tard, pas 6. Déjà, ça aurait dû être un à 10, mais bon, 10 jours plus tard, coup de fil. Voilà, la loterie qui leur demandait de bien vouloir repasser au bureau pour vérifier quelques documents. Notre couple d'arnaqueurs bidons y est allé sans se douter de quoi que ce soit, content. Ça y est, eux, ils allaient déposer le chèque sur leur compte en banque. C'était fait. Oui, sauf que sur place, c'est la police qui les attendait.
Les menottes.
Eh oui, drôle de surprise. En fait, la société de loterie a mis un peu plus de temps parce qu'elle a reconnu ce billet falsifié parce que les numéros de série à l'arrière ne se suivaient pas. Ils ont collé deux billets, un gagnant, mais qui n'ont rien à voir, les deux ensemble. Du coup, le numéro de série ne correspondait pas. La loterie a vraiment pas mis longtemps à se rendre compte que c'était un billet falsifié. Le couple a bien sûr été interrogé. Alors, c'est là que ça continue. Vraiment, c'est gaguesque. Ils s'étaient absolument pas mis d'accord. Ils sont fait cueillir par la police, donc ils ont pas eu le temps de dire
ils ont livré des versions différentes.
Rien à voir.
Oui.
C'est-à-dire que monsieur dit que il a trouvé deux tickets dans la rue et qu'il les a recollés ensemble, et madame dit que le ticket a été endommagé par la pluie. Bref, aucune version, les deux ne sont absolument pas crédibles. Dakota, c'est monsieur, et Kira, madame, risque aujourd'hui jusqu'à 30 ans de prison pour escroquerie et contrefaçon. Alors normalement, pour ce genre d'escroquerie avec un billet de loterie, c'est 5 ans de prison aux États-Unis. Sauf que là, la peine est alourdie à 30 ans parce que cela concerne une somme qui s'élève à 1 million d'euros. En fait, le nombre d'années de prison est mis en conséquence de la somme que vous étiez en train d'essayer de voler, quoi.
Bon, donc, ils ne rentreront pas leur chance, en tout cas de manière peut-être plus honnête la prochaine fois.
Je ne pense pas, je pense qu'ils vont passer quelques années à l'ombre. Ouais.
Merci Anissa Dali.
Merci Anissa, on vous retrouve juste avant le journal de 5h30 pour la météo. Europe 1, il est 5h18.
Le journal permanent, Fanny Marceau.
Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a bien retiré son préavis de grève, mais trop tard, les conséquences vont tout de même se faire sentir aujourd'hui. 75% des vols supprimés à Orly, 55% à Roissy et de nombreux aéroports régionaux impactés. Deux mineurs de plus mis en examen hier pour tentative de meurtre sur la jeune Samara, 13 ans, passée à tabac début avril à la sortie de son collège à Montpellier. Au total, 5 adolescents sont désormais suspectés d'être impliqués dans cette agression. 7 ans après son premier discours sur l'Europe, Emmanuel Macron de retour à la Sorbonne ce matin. Au programme, le bilan de ces dernières années, la préparation du prochain agenda stratégique de l'Union européenne. Et il s'agit surtout de relancer la candidature de la tête de liste Renaissance Valérie Ayé à la peine dans les sondages. Emmanuel Macron qui a remporté son match caritatif hier avec le Variété Club de France, l'équipe présidentielle qui comptait notamment Didier Deschamps, le parrain des pièces jaunes, mais aussi Didier Drogba ou Christian Carambeu, s'est imposé 5-3 face aux soignants et agents de la ville de Plaisir, emmenés par l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger.
Europe 1.
Merci Fanny Marceau. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans une dizaine de minutes. Mais juste avant le journal de 5h30, bien évidemment, on va se réveiller en musique. Combine, on va écouter qui ce matin?
L'un des pères fondateurs du rock'n'roll, Chuck Berry.
Les initiatives en France à 5h19. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un rituel que tous les parents connaissent bien, hein. Les histoires et les livres du soir qu'on lit à ses enfants, oui, à l'heure de les mettre au lit. Bah oui, vous avez connu ça. C'est un petit peu loin, oui, pour vous peut-être, Ombline.
Ça y est, ils se débrouillent maintenant.
Eh ben, une question ce matin. Et si vos enfants imaginaient à leur tour leurs propres aventures, inventaient leurs propres héros? Il existe pour cela une application.
Bonjour Jean-Baptiste Sago.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Valentin Tabary et Clément Demilly. Vous avez lancé à Lille en janvier dernier Tell Me, une application pour raconter des histoires aux enfants, mais des histoires, Jean-Baptiste Sago, uniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, tout à fait. Tell Me est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur les stores pour permettre aux parents, en fait, de créer des histoires personnalisées avec leurs enfants à leur raconter chaque jour.
Vous êtes papa, Jean-Baptiste Sago. Quand j'ai préparé l'interview, j'ai pu lire ça sur votre site. Que s'est-il passé? Vous étiez en panne d'histoire avant le coucher du soir, en panne d'inspiration. Vous ne trouviez plus de contes à lire à vos enfants. C'est ce qui vous a donné l'idée de créer Tell Me?
Oui, exactement. C'est vrai. Mon fils, en fait, est dyslexique et on l'a diagnostiqué sur le tard l'année dernière, il y a même un an et demi. Et en fait, en discutant avec l'orthophoniste, elle m'a dit que lui lire des histoires, ça pouvait lui permettre de se reconnecter au monde du livre. Et puis ça pouvait lui permettre surtout de enrichir son vocabulaire, développer sa créativité, son imagination. Mmh. Et donc je me suis mis à lui relire des livres, mais on a vite épuisé la bibliothèque à la maison, parce qu'elle n'est pas extensible. Et puis on a commencé à utiliser l'IA, qui était grand public, et malheureusement on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et donc du coup, avec Quentin Clément, on a commencé à travailler sur des trames narratives, on a fait un travail d'auteur pour développer des trames narratives pour qu'on puisse créer des histoires avec l'intelligence artificielle qui soient captivantes et que mon fils adore lire et écouter. Mmh. Et progressivement est née l'idée de Tell Me à partir de ça. Et puis un an et demi plus tard, l'application maintenant en main, mon fils a tout doucement repris le goût de la lecture et repris même des livres et se remet à lire tout seul.
Expliquez-nous comment ça marche. On commence par choisir un thème, hein, c'est ça?
Exactement. On commence dans l'application par choisir un thème. Par exemple, ça peut être le voyage du héros qui est une quête, ou l'ascension du champion qui parle d'un sportif. Ou le savant fou, par exemple, un scientifique qui crée une créature qui va lui échapper. Donc ça, c'est des thèmes qu'on développe avec un travail d'auteur et qui, une fois que vous avez choisi ce thème avec votre enfant, donc c'est vraiment une application qui est dédiée aux parents, à faire avec les enfants. Donc vous choisissez ensemble avec l'enfant le thème. Une fois que vous avez choisi le thème, l'application va vous poser 3 à 4 questions auxquelles vous allez répondre, par exemple le personnage principal ou l'univers dans lequel ça va se dérouler. La seule limite, ça va être votre imagination, celle de votre enfant. C'est-à-dire que vous pouvez décrire votre doudou, c'est un lapin rose avec un seul œil parce que l'année dernière, le chien l'a arraché. Et ça peut être aussi décrire votre petite sœur, le petit frère ou alors soi-même dans l'application. Et au plus on mettra de détails, au plus l'histoire sera imprégnée de tous ces détails et l'illustration qui sera générée sera fidèle aux détails que vous aurez mis dans ces questions, dans ses réponses à ces questions. Et une fois que vous avez rempli toutes les questions, l'application génère en quelques minutes une histoire qui est chapitrée, illustrée, prête à être lue à votre enfant. Et vous pouvez également en parallèle télécharger le PDF qui vous permettra d'imprimer l'histoire si jamais vous voulez passer de l'écran directement.
Les lectures durent combien de temps? C'est des petites histoires? Alors, ça dépend de plutôt courtes?
C'est des histoires assez courtes. Après, ça dépend de ce qu'on entend par cours, mais on adapte en fait la longueur de l'histoire à l'âge de l'enfant. Donc quand on a fini de renseigner les questions, on choisit l'âge de l'enfant entre 5 et 8 ans, c'est des histoires entre 3 et 5 minutes de lecture. Et plus de 9 ans, ça va être des histoires entre 6 et 10 minutes de lecture.
Sur Europe 1, on parle de Tell Me, l'application qui raconte des histoires aux enfants avec vous, Jean-Baptiste Sago. Vous avez précisé qu'on pouvait les télécharger et créer des PDF. On peut également les conserver dans l'application, les histoires?
Alors oui, ces histoires sont stockées dans une bibliothèque dans l'application pour pouvoir les lire et les relire à l'infini. On peut également, si on le souhaite, débloquer une fonctionnalité audio pour pouvoir les réécouter une fois qu'elles ont été lues une première fois. Et le gros plus de l'application, c'est que toutes les histoires qui sont créées par les utilisateurs peuvent être, si l'utilisateur le souhaite, partagées dans la communauté. Donc ça veut dire que vous avez accès à des milliers d'histoires aujourd'hui qui ont été générées. On compte 1500 utilisateurs depuis janvier sur l'application et des milliers d'histoires qui ont été générées. Donc si un soir vous rentrez et que vous n'avez pas le temps de créer une histoire avec votre enfant, Vous pouvez aussi aller piocher dans la bibliothèque d'histoire qui est déjà existante.
Des études récentes mettent en avant que les jeunes lisent de moins en moins des livres au profit des écrans. Est-ce que vous ne craignez pas justement de rajouter un écran en plus, et notamment le soir avant le coucher? Est-ce que c'est une critique que vous entendez?
Alors régulièrement, et en fait, vous avez complètement raison, 37% des parents aujourd'hui ne prennent plus le temps de lire des histoires à leurs enfants. Et c'est un chiffre qui est en baisse et qui est notamment dû à nos modes de vie hyper speed et à tous les outils qu'on a entre nos mains. Et justement, avec Telmi, nous, ce qu'on voulait proposer, c'est une expérience originale qui fasse du smartphone un outil qui rassemble les familles. Oui. Donc, c'est un outil qui va venir chercher un moment, qui va permettre de créer un précieux moment entre un parent et son enfant autour de la création d'une histoire. Donc, c'est justement tout l'inverse. L'idée, c'est que même s'il y a une illustration à montrer à l'enfant au début de l'histoire, après, on lit l'histoire à son enfant et l'enfant peut laisser aller son imagination et imaginer tout l'univers qui se déploie à travers l'histoire que son parent ou son grand-père va pouvoir, ou sa grand-mère va pouvoir lui raconter.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Sago. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Telmi, l'application qui redonne le goût de la lecture aux enfants et éveille leur imagination. Bonne journée.
Merci à vous.
Europe 1, bonjour.
5h-7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Soyez tous les bienvenus à 5h25, c'est Europe 1, bonjour, 5h-7h. Dans quelques minutes, les infos avec Christophe Lamarre. Mais d'abord, Omblin Roche, on écoute un pionnier du rock'n'roll.
Oui, Chuck Berry, en 1964, avec You Never Can Tell sur Europe 1.
Chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Cherry Red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Une fine moustache, une banane dans les cheveux, alors saturée de, je sais pas de quoi, de gel.
De gomina.
De graisse, voilà, de pento.
De pento.
Et cette fameuse duck walk, ce pas dedans, cette marche du canard. Chuck Berry, c'était tout ça et beaucoup plus. You Never Can Tell, qu'on entendra 30 ans après sa sortie dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994.
Mais oui, c'est fou comme ce titre immanquablement me fait penser à chaque fois à Pulp Fiction. Il faudrait que je le revoie. Bienvenue si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 7h. La prescription culture dans la prochaine demi-heure. Marie Jiquel vous emmène au Printemps de Bourges à 6h-10.
C'est en ce moment, c'est jusqu'à dimanche. Marie a assisté au spectacle Message personnel en hommage à Françoise Hardy. Votre invité dans un quart d'heure, Alexandre Lemaire.
Attention à la dengue. Le virus présente 13 fois plus de cas en métropole qu'il y a un an. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est douloureux? Quels sont les symptômes en réalité de la dengue? On va poser toutes ces questions à l'épidémiologiste Antoine Flao. Il sera avec nous à 6h-20 après les infos sur Europe 1. Le temps pour ce jeudi jeudi 25 avril, Anissa Haddadi, c'est mitigé hein, aujourd'hui.
Oui, les nuages sont nombreux encore aujourd'hui, notamment sur le grand quart sud-ouest entre les Pyrénées-Atlantiques et l'ouest de l'Auvergne. On a vraiment un ciel couvert, menaçant. D'ailleurs, il neige hein, sur le massif central à 1000 mètres d'altitude aujourd'hui. Les averses sont fréquentes ce matin. D'autres averses, tiens, entre les Hauts-de-France et les Alpes du Nord, en passant par la Bourgogne. D'ailleurs, il neige aussi sur les Vosges, dès 600 mètres. Cet après-midi, le ciel va rester capricieux au niveau du sud-ouest. Les éclaircies, elles, viendront illuminer le ciel entre les Pays de la Loire, la Bourgogne, en passant par la région parisienne. On aura l'occasion de voir quelques rayons de soleil. Hein. Je pense qu'on pourra les compter sur les doigts d'une main. Les températures, dans le sud, c'est encore agité sur la Corse. On a de gros coups de vent et des averses. Soleil sur le pourtour méditerranéen. 2 à 11 degrés ce matin, 11 à 20 cet après-midi. Très léger au doux.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil avec Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
À la une de l'actualité, le sport peut-il devenir une terre de séparatisme? À 7, la préfecture sanctionne un club local de foot pour sa dérive communautariste. Reportage en début de journal. La sécurité des Jeux Olympiques toujours en question. Un adolescent de 16 ans, déjà fiché S, a été interpellé. Il projetait un attentat dans le quartier de la Défense pendant les Jeux de Paris. Un pas vers l'abolition de la gestation pour autrui en Europe. Bruxelles inclut l'exploitation de la GPA dans sa directive de lutte contre la traite des êtres humains. L'affaire Fillon, la Cour de cassation confirme la condamnation de l'ancien Premier ministre et de son épouse. Il faudra donc un nouveau procès pour fixer la peine. Et puis le foot, le PSG, large vainqueur hier soir à Lorient, mais toujours pas champion de France. Monaco qui a battu Lille retarde encore le couronnement parisien. 5h30 sur Europe 1, le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Cela fait quelque temps que les services de l'État, et pas seulement eux, s'inquiètent du séparatisme à l'œuvre dans le sport. C'est particulièrement visible dans le football amateur. Dernier exemple en date à 7, où l'un des clubs locaux, le 7 Olympique Football Club, vient d'être sanctionné par la préfecture pour entorse à la laïcité. Conséquence, plus de subventions, plus d'accès aux terrains municipaux. Reportage Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Ces footballeurs musulmans ont l'habitude de s'entraîner sur un terrain municipal qu'ils partagent avec d'autres clubs et donc d'autres joueurs abasourdis.
Mélanger la religion avec le sport, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe.
J'apprends des choses quand même qui me choquent un peu. Nous, on n'est pas du tout dans le communautarisme où on ne veut pas de femmes, pas du tout là-dedans.
Il y a eu en effet refus délibéré d'ouvrir une section féminine. Il y a aussi ce mystérieux logo remplacé Manu Militari en juin dernier suite à un contrôle. Et cela interroge Hervé Marquez, élu au sport à la ville de Sète.
C'est un croissant de lune, donc. Nous avons décidé de suivre les motivations du préfet à la lettre. Donc, défaut de neutralité, du fait d'un signe emblématique de la religion musulmane pour le logo du club. Je crois que ces choses sont claires.
La ville va donc priver le club de ses 8000 euros de subventions annuelles en plus de ses terrains municipaux.
Le contrat que nous avions pris avec eux, il y a le contrat d'engagement républicain et la charte de la laïcité. Et aujourd'hui, le contrat de confiance est rompu. La laïcité n'y est plus.
Le club a d'ores et déjà prévu de faire appel et refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique. À 7, Charles L'Huillier, Europe.
L'interpellation d'un adolescent de 16 ans fiché S en Haute-Savoie. Il projetait un attentat pendant les Jeux Olympiques pour, dit-il, mourir en martyr au nom du califat islamique. Ce sont ses propos sur la messagerie Telegram qui ont alerté les enquêteurs. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête.
Et à l'approche de ces Jeux Olympiques, Christophe, la Russie est soupçonnée de se livrer à une campagne de désinformation de grande ampleur au détriment de la France.
Et Paris, incapable d'organiser correctement les JO, accueil, sécurité, transport, tout y passe et tout est bon pour discréditer la France. Les services de renseignement relèvent de plus en plus de fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux. Ça va même parfois plus loin avec de vrais faux reportages. Enquête, Jean-Baptiste Marty.
Une musique de fond anxiogène. Des identités visuelles de médias français imitées, comme sur un reportage de TF1 repris sans la voix du journaliste et cette fausse information en sous-titre. Les Parisiennes sont invitées à accoucher avant les Jeux Olympiques pour libérer les lits pendant l'événement. Ou cet autre reportage repris de France 24 avec son logo et expliquant que le site de location Airbnb ne remboursera aucune réservation pendant la compétition en cas d'annulation. Là encore un mensonge, une stratégie de désinformation selon David Collomb, avec un objectif final bien identifié.
De fragiliser l'image de notre pays et de ses dirigeants dans le monde. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques représentent une occasion unique en diffusant des narratifs remettant en cause la capacité de notre pays à mener à bien ce grand événement.
Des opérations sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent à d'autres comme les Étoiles de David dans le 14e arrondissement de Paris en octobre dernier. Et cette crainte pour le renseignement que l'accumulation de ces fausses informations touche les anti-JO en France, des contestataires prêts à perturber le bon déroulé de l'événement.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice. François Fillon reconnu coupable dans l'affaire dite du Penelope Gate. Cette fois, c'est définitif. Ainsi en a décidé la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle de 2017. Mais il faudra tout de même un autre procès pour fixer la peine, la durée de la peine et le niveau de l'amende, ainsi que celui des dommages et intérêts. Maïlène Trémollet.
La culpabilité de François Fillon est confirmée. Lui, sa femme et son ancien suppléant avaient été condamnés pour détournement de fonds publics et complicité. Une décision décevante pour Patrice Spinozzi, l'avocat de François et Pénélope Fillon.
Déception parce que nous avions les arguments au fond, qui étaient des arguments juridiques et qui étaient tout à fait pertinents. Les époux Fillon s'interrogent aujourd'hui de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
En revanche, source de satisfaction pour le camp Fillon, la Cour de cassation demande à la Cour d'appel de réexaminer sa peine. L'ancien Premier ministre avait écopé de 4 ans de prison, dont un ferme.
Une petite victoire. L'annulation de l'ensemble des peines qui avaient été prononcées. La peine d'emprisonnement ferme qui avait été prononcée contre lui. Il a été jugé que la Cour d'appel avait eu la main trop lourde. Les montants étaient excessifs en considération de la réalité.
Un quatrième procès va donc être audiencé. Outre de nouvelles peines, la Cour d'appel devra réexaminer le montant des dommages et intérêts qu'elle avait fixé à 800 000 euros. Une somme que devait verser le couple Fillon à l'Assemblée nationale.
Magdalène Trémollet du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, 5h35. Attention, jeudi noir, Christophe, dans le ciel français. Et cela malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens.
Du jamais vu depuis une vingtaine d'années, selon un professionnel du secteur, 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée d'Orly. Près d'un sur deux pour Marseille. Presque quelques exemples seulement de la pagaille qui s'annonce aujourd'hui malgré un accord arraché in extremis entre les syndicats et le ministère des Transports.
L'offre est de plus en plus large. Au cinéma, des biopics et films biographiques. En voici un nouveau accompagné d'une bande dessinée. La vie d'Amy Winehouse, la chanteuse britannique disparue en 2011, inspire à la fois le cinéma et la BD, Christophe.
Avec plus ou moins de réussite, le film Back to Black est largement éreinté par la critique. Le biopic est à la mode, ce genre cinématographique en panne d'inspiration qui consiste à raconter la vie d'un personnage célèbre. Gagnerait-il la BD ? 14 dessinateurs ont décidé de retracer la vie agitée de l'icône britannique. Sébastien Bordenave.
15 dessinateurs et autrices ont œuvré sur cette BD qui s'appelle sobrement Amy Winehouse, et de la sobriété, il y en aura très peu dans cet album dont on connaît douloureusement la fin. Mais on apprend beaucoup, par exemple, l'amour d'Amy pour sa mamie Cynthia, ancienne chanteuse de jazz sur laquelle Glenn Miller a eu des vues, les cheveux de jet, le regard frondeur, les tatouages 50s et la choucroute capillaire, c'est elle l'inspiration. La BD décrit aussi parfaitement le drame crescendo que fut la vie d'Amy, l'eyeliner grossissant au fur et à mesure que sa silhouette maigrissait pour les tristes raisons que l'on sait. Mitch Winehouse, le père absent, résume en déclarant « Le meilleur album du 21e siècle, Back to Black, parle du pire salaud que la Terre ait porté. Il parle de celui qui a entraîné Amy aux enfers, celui qui faisait passer de la drogue dans ses peluches quand elle était en cure de désintox. La BD Amy Winehouse nous fait totalement regretter la disparition de cette étoile foudroyante de la soul, en espérant qu'elle ait en juillet 2011 refermé derrière elle la porte du Club des 27. »
Sébastien Bordenave, Amy Winehouse, bande dessinée éditée chez Petit à Petit, et à l'intérieur de cette BD, les passionnés trouveront de nombreux documents. Le football avec 3 matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 hier soir. Paris attendra encore un peu avant d'être sacré champion de France. Les Parisiens vainqueurs de 4-1 de Lorient, mais Monaco, qui s'est imposé 1-0 face à Lille, retarde encore un petit peu le couronnement. Marseille, de son côté, fait match nul 2-2 face à Nice.
Merci Christophe Lamarre. Il est 5h38. Bon réveil avec Europe 1 dans 2 minutes. C'est le jour où Amblin Roche avec les archives d'Europe 1.
Oui, et on parle cinéma, tiens, encore à nouveau ce matin, le film Phénomène, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en salle le 25 avril 2001.
D'abord, on découvre le pronostic du Quintet sur Europe 1, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce Quintet, réservé exclusivement à la gente féminine et parmi les 16 juments au départ, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic les numéros 5 Matory Gold et 14 Looking At Me, qui viennent toutes les deux d'effectuer une excellente course de rentrer après avoir effectué une pause cet hiver et juger sur ce qu'elles avaient réalisé l'an dernier dans cette catégorie des quintés, ce sont pour moi deux priorités. On leur opposera les numéros 6, Girafe, et 10, Dipsy, respectivement 3e et 4e d'un quintet similaire le 21 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, et elles n'auront qu'à répéter cet après-midi la valeur réalisée ce jour-là pour conclure à coup sûr dans les 5 premières. Enfin, méfiez-vous de Seabreaker, le numéro 11, qui certes souffle le chaud et le froid, mais attention, je sais qu'elle a très bien retravaillé depuis et je sais que le matin à l'entraînement, elle n'a jamais été aussi bien. Enfin, les numéros 13, Wine Point, 7, Pingo et 4, Centorina compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 14, 6, 10, 11, 13, 7 et 4.
On retrouve votre pronostic dès maintenant sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. 6h20, le jour où l'histoire racontée à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
C'était aussi un 25 avril, on se souvient ce matin de la sortie en salle du fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'était en 2001, Audrey Tautou dans le rôle principal. Ce film de Jean-Pierre Jeunet, Lord, va rapidement devenir un véritable phénomène.
Oui, l'histoire de cette serveuse introvertie et fantasque qui décide de semer discrètement le bonheur autour d'elle en réparant la vie des gens sans qu'ils le sachent. Cette histoire a vite emballé le public.
C'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Ça doit être mon ange gardien, c'est pas possible.
Et surtout, Amélie Poulain, avec ses cheveux noirs au carré et son air malicieux, va agir de manière anonyme. C'est ce qui a plu au réalisateur Jean-Pierre Jeunet, ici sur Europe 1 au moment de la sortie du film.
Elle fait ça de façon complètement gratuite, sans rien réclamer en échange. C'est ça qui est troublant, je trouve. Ouais. Alors évidemment, elle va être récompensée à la fin, parce que évidemment, on est au cinéma. C'est l'industrie du rêve.
Le film va faire plus de 8 millions d'entrées au cinéma. Jean-Pierre Jeunet est tombé des nues.
Mais là, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Visiblement, on a touché quelque chose chez chacun, on ne sait pas trop quoi, mais c'est peut-être bien de ne pas trop chercher à comprendre.
Ouais, c'est vrai.
C'est extraordinaire.
Pour incarner Amélie Poulain, Audrey Tautou a fait l'unanimité lors du casting, qui est pourtant une épreuve pour elle à chaque fois, comme elle le raconte au micro de Bruno Kras sur Europe 1 en 2001.
Rien n'est jamais gagné, quoi.
C'est dur un casting?
Ah bah oui, c'est difficile. Moi j'en ai raté plein aussi. Hein.
C'est vrai?
Ah bah oui. On se dit qu'il faut absolument plaire, correspondre au rôle tout de suite quand on va rentrer dans la pièce. Donc déjà, c'est difficile d'être naturel et spontané, parce que comme on en demande, les rapports sont pas forcément équilibrés.
Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours.
Hein. Les temps sont durs pour les rêveurs.
Le film devient donc un phénomène au point que cette jeune fille qui s'appelle vraiment dans la vie Amélie Poulain, qui est étudiante à Lille, a vu à l'époque sa vie changer.
Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école, j'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin vraiment.
Parce que dans le film, il y a une histoire de photomaton.
Ouais, voilà.
Alors le film, vous l'avez vu combien de fois?
3 fois.
Mais moi, à 30 ans, on passait derrière un zinc, j'en connais un rayon, question coup de foudre.
Et depuis 20 ans, les touristes étrangers veulent aussi, lorsqu'ils visitent Paris et Montmartre, voir le café Les Deux Moulins, où a été tournée une partie du film, et où on sert désormais le goûter d'Amélie, café, framboise fraîche et crème brûlée, le dessert adoré d'Amélie Poulain.
Et ben voilà aussi un beau film à revoir. C'était quand votre dernière séance Omblin avec Amélie Poulain?
Alors figurez-vous que c'était il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai montré à mon fils adolescent, qu'il n'avait pas encore vu. Il faut faire partager aux enfants.
Il faut faire partager surtout ce genre de très beau film, Le Jour Où, avec les archives d'Europe 1. Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis.
Et on a le plaisir de jouer désormais maintenant avec Le Jour Où, et pour vous offrir une croisière de 5 jours avec CroisiEurope, vous allez découvrir les trésors vinicoles du sud-ouest, direction Blaye, Libourne, Saint-Émilion, et à bord vous allez être vraiment gâtés. Cuisine raffinée, boissons, animation, les visites guidées, les excursions, tout compris, croisiEurope.com pour les photos et pour en savoir plus.
La question du jour pour tenter de remporter cette croisière. Qui a réalisé le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Réponse A, Jean-Pierre Jeunet. Réponse B, Luc Besson.
Et vous envoyez par SMS pour tenter votre chance croisière au 739-21, 2x75 centimes, coût du message, et vous répondez simplement à la question.
Allez, bonne chance à tous. À suivre dans quelques minutes à 6h10 sur Europe 1, votre rendez-vous culture.
Avec ce matin la création Message Personnel en hommage à François Hardy, présenté au Printemps de Bourges qui a démarré mardi. Marie Jiquel est sur place. Et puis on va lire le roman de Stéphane Carlier qui s'appelle Clara Lee Proust. Ce sera avec Nicolas Carreau.
RH. 5h-7h.
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h43.
À mesure que les Jeux Olympiques se rapprochent, il reste 3 mois maintenant, eh bien, les autorités sanitaires se préoccupent de plus en plus des risques pour le sanitaire, justement. La crise de Covid, évidemment, toujours dans le rétroviseur. Les craintes se concentrent actuellement sur la dengue. Faut-il, oui ou non, craindre une explosion de ce virus dans l'Hexagone? Près de 1700 cas importés ont déjà été recensés depuis le début de l'année. C'est tout simplement 13 fois plus que l'année dernière.
Et pour en parler, vous recevez Alexandre Lemaire, le professeur Antoine Flao. Il est épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève.
Bonjour Antoine Flao.
Bonjour.
D'abord, première question, comment expliquez-vous cette recrudescence de la dengue en France métropolitaine?
Alors, ce sont des cas de dengue importés que l'on a vu en France métropolitaine durant les premiers mois de l'année 2024. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ces cas viennent de zones où il y a des épidémies très fortes de dengue qui sévissent. La dengue, c'est une maladie qui est due à un virus qui est transmis par un moustique et qui ne se transmet pas l'hiver en Europe et dans l'hémisphère nord, de façon générale dans les zones tempérées, mais qui se transmet en revanche aux Antilles, par exemple, aux Caraïbes françaises, qui a connu d'ailleurs l'épidémie de dengue la plus forte de ces 10 dernières années.
Donc lorsque vous dites cas importés, qui représentent la majorité effectivement des cas de dengue observés actuellement en métropole, ce sont des cas importés donc en particulier des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Voilà, alors c'est même pas la majorité, c'est la totalité.
La totalité
des cas. Oui, alors il existe des chaînes de transmission de dengue en France, c'est déjà arrivé. Il y a eu une cinquantaine de cas l'an dernier, mais c'est l'été que ça survient. Ça peut survenir, c'est dû au moustique tigre hein, en France métropolitaine, c'est-à-dire un moustique qui s'appelle Aedes albopictus. Et en fait, il se propage, il se multiplie, ce moustique, en France, l'été, lorsque les conditions météorologiques le permettent. Mais en hiver, le moustique est à l'état larvaire, il ne se propage pas, il ne pullule pas dans nos villes.
Donc si je comprends bien, la seule façon d'attraper le virus de la dengue, c'est d'être piqué par un moustique. Le moustique tigre est l'unique vecteur du virus de la dengue.
Oui, il doit pouvoir y avoir des transmissions par voie sanguine, en cas de transfusion sanguine infectée, mais c'est des cas rarissimes. C'est vraiment ce qu'on appelle une arbovirose, c'est-à-dire que c'est un virus qui se transmet vraiment par le moustique. Et c'est le moustique qui se contamine en nous piquant et qui contamine après d'autres personnes en les piquant à leur tour sur la table voisine ou dans la maison d'à côté. Ce sont souvent d'ailleurs des moustiques qui ont un très faible rayon d'action, c'est-à-dire que c'est des moustiques qui vivent, y compris l'été, à proximité des habitations.
Donc il est bon de rappeler, professeur Flao, que ce virus, a priori, ne se transmet pas d'homme à homme.
Ah, il ne se transmet pas d'homme à homme.
Donc c'est là où on en arrive naturellement aux craintes fondées hein, pour cet été avec l'arrivée des Jeux Olympiques et la concentration de population de spectateurs que ça va générer. Avec la période estivale, donc l'arrivée potentielle du moustique tigre, qui peut potentiellement créer cette chaîne de transmission que vous décrivez, professeur Flao.
Tout à fait. Oui. Mais on n'est pas non plus sous les tropiques. Hein. On ne vit pas à Paris comme à Saint-Denis de la Réunion ou comme à Pointe-à-Pitre. Là, les moustiques sont très bien établis, se sont très durablement, je dirais, intégrés à la vie quotidienne des habitants de ces grandes métropoles du Sud et entraînent souvent des très grosses épidémies. À La Réunion, il y a eu une épidémie de chikungunya, qui est un virus très proche de celui de la dengue, qui avait concerné 40% de la population dans les années 2007. On n'a jamais connu, dans la période récente, d'épidémies de cette taille au niveau de l'Europe occidentale et de l'Europe continentale. C'est-à-dire que
donc, avec un événement tel que les Jeux Olympiques, vous nous dites que le risque d'une flambée des cas cet été exceptionnel est assez relatif.
Oui, il y a un risque certain de transmission, de chaîne de transmission, donc de quelques cas. Il pourrait y avoir quelques cas au sein d'un village olympique, c'est pas impossible. Vous savez, pendant les Jeux de Rio, il y avait la grande épidémie de Zika, qui est aussi un virus qui se transmet par le même moustique d'ailleurs. Eh bien, on a redouté hein, que les athlètes puissent le contracter. Il n'y a pas eu de transmission, ou très très peu de transmission de ce virus. En revanche, il y a eu d'autres transmissions d'autres virus qui n'étaient pas prévus, notamment du Nil occidental, qui est aussi transmis par un moustique. Mais donc, tout ça pour dire, il y a quelques chaînes de transmission qui peuvent arriver. Il n'y a pas eu une très grosse épidémie de Zika ou de dengue au Brésil, qui pourtant une métropole plutôt subtropicale où ils auraient pu connaître ce type d'événement. Donc même dans un endroit où les conditions sont très favorables à la pullulation du moustique, vous n'avez pas, lors des Jeux Olympiques, eu dans l'histoire récente de très grosses épidémies de ce genre.
Bon, alors voilà de quoi se rassurer. Comment sait-on qu'on est atteint de la dengue ? Quels sont les symptômes ?
Oui, les symptômes, vous savez, les gens des pays tropicaux disent c'est la grippe des tropiques. En fait, c'est vraiment des symptômes qui ressemblent à la grippe, c'est-à-dire que on a des courbatures, on a de la fièvre, dans les symptômes un peu banaux, on a souvent parfois même des douleurs articulaires, ce que l'on peut avoir, malheureusement, avec la dengue, c'est des formes compliquées, des formes graves, qui sont des formes qu'on appelle hémorragiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hémorragies internes de différents organes, et ça, ce sont des formes très graves qui peuvent légitimer une hospitalisation et qui peuvent parfois conduire au décès. Donc, dans la très grosse épidémie de dengue qu'il y a eu en ce moment en Amérique latine, dans ces derniers mois, il y a eu plus d'une centaine de morts, notamment chez des petits-enfants et ou chez des personnes fragiles qui ont pu faire des dengues compliquées. Donc, ça peut arriver. C'est rarissime, c'est pas une maladie très grave, mais ça arrive aussi avec la grippe, hein, il faut le savoir, aussi avec le Covid, on a des formes graves et des formes sévères.
Donc on consulte dans tous les cas, lorsqu'on a les symptômes que vous décrivez.
Oh ben les gens consultent, ne serait-ce parce qu'ils peuvent pas aller travailler, c'est une très forte grippe, ils sont au tapis, c'est un mauvais souvenir qu'on ramène de temps en temps et qui n'est pas agréable, donc oui, on consulte son médecin vérifie qu'on ne fait pas de forme compliquée, ce qui est encore une fois rarissime, et tout rentre dans l'ordre le plus souvent, même sans aller bien sûr à l'hôpital.
Bon, en tout cas, vous avez su nous rassurer ce matin sur Europe 1 sur la bonne tenue de ces Jeux Olympiques, il n'y a pas lieu de s'alarmer, de céder à la panique, malgré la recrudescence réelle, des cas de dengue, des cas importés, donc vous nous l'avez confirmé en totalité pour les cas observés en France métropolitaine. Merci professeur Antoine Flao, épidémiologiste, je le rappelle, et directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève. Merci à vous.
Merci.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue si vous nous rejoignez ce jeudi matin sur Europe 1. Dans quelques instants, on sera au Printemps de Bourges avec Marie Jiquel. Ce sera juste après le journal permanent à 6h-10. Christophe Lamarre.
Un adolescent de 16 ans fiché S interpellé en Haute-Savoie. Il projetait un attentat dans le quartier de la Défense près de Paris en plein Jeux Olympiques pour, dit-il, mourir en martyr au nom du califat islamique. Ce sont ses propos sur la messagerie Telegram qui ont alerté les enquêteurs. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Emmanuel Macron, les deux pieds dans la campagne pour les élections européennes. Nouveau discours sur l'Europe du chef de l'État ce soir, 7 ans après le premier et au même endroit, c'est-à-dire à la Sorbonne. Racheter ses propres actions pour garantir une meilleure rémunération aux actionnaires, pratique courante bientôt taxée en France. Bercy va imposer les entreprises réalisant le rachat de leurs actions dès l'année prochaine. 3 matchs en retard pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 de football hier soir. Le PSG large vainqueur, Cada Lorient 4-1. Le sacre des Parisiens attendra encore un peu puisque Monaco a également gagné face à Lille 1-0. Match nul entre Marseille et Nice, 2-2.
Merci Christophe Lamarre, le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, 5h, 7h, il est 5h52, bon réveil, la prescription culture, Alexandre avec Marie Jiquel dans un instant, Marie Jiquel qui est au Printemps de Bourges.
On commence bien sûr avec votre conseil lecture du jour, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Alors vous nous parlez ce matin Nicolas d'un roman de Stéphane Carlier, c'est un roman qui est maintenant disponible au format poche.
Clara Lee Proust, c'est le titre qui vient de paraître chez Folio, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy Coiffure. C'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née de l'âge, un beau personnage, Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clips avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire. Le salon, oh, c'est pas un Jacques de Sange ou un Jean-Claude Biguin, hein. C'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib n'a pas cédé à la tentation d'un jeu de mots avec TIFF.
Ah oui, la poésie des salons de coiffure avec les jeux de mots sur l'enseigne, je ne sais pas, qualitatif, affirmatif, Nicolas.
Exactement, ça existe aussi avec R, Voltaire, Rocker, on les connaît. Mais enfin, c'est un problème quand même ce nom Cindy Coiffure. Cindy, c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, dans ce salon, il y a Nolwenn aussi, et Patrick, et puis Clara. Clara, ça va, franchement, elle est jeune, 23 ans, elle est chouette, elle vit avec un chat qui n'aime pas les caresses, et elle est avec JB, pompier, beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon. Mais bon... elle n'est plus trop amoureuse, en fait. Et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose.
Bon, alors Nicolas, quel est le rapport avec Proust ?
Ça arrive. Ah. Un jour, un client oublie un roman dans le salon, un livre de poche. C'est Du côté de chez Swann, le premier tome de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé. Et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir. Et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes, la téléporte dans son enfance. Elle revoit un tableau familier chez sa nourrice. Elle continue. Elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois. Elle vit maintenant dans La Recherche et c'est tout un monde qui s'ouvre et cette lecture va changer sa vie. Mais pour de vrai, comment ? Bah, faudra lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, vous avez compris, à son pouvoir, à sa capacité de changer les points de vue sur le monde, mais pas seulement. Les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés et c'est réjouissant.
Clara lit Proust, c'est signé Stéphane Carlier, qui est, c'est donc maintenant disponible en poche chez Folio. Merci Nicolas Caro.
On retrouve à présent sur Europe 1 Marie Jiquel.
Bonjour Marie.
Bonjour Omblin et bonjour Alexandre.
On part avec vous Marie au printemps de Bourges. C'est le premier festival de l'été, de la saison. Hein. 250 000 spectateurs attendus jusqu'à dimanche pour cette 48e édition. Alors vous avez assisté Marie Jiquel à l'une des premières soirées hier. Ça s'appelle Message personnel. C'est un hommage à Françoise Hardy.
Oui, alors cet hommage, c'était presque une pause enchanteresse hein, dans ce printemps où on entend les basses tout le temps. Un printemps qui se lançait hier en plus en grande pompe avec des scènes assourdissantes, électro-pop-rock, avec Kyo, le DJ Martin Solveig et Mika, face à un public, vous l'imaginez, déchaîné. Et puis, il y avait ce moment suspendu... En début de soirée, cet hommage à Françoise Hardy orchestré par l'artiste sage de l'ancien groupe Revolver. Une scène à l'ambiance intimiste portée par la nouvelle génération française avec Clara Luciani ou Zao de Sagazan, entre autres. Des artistes presque timides, humbles face au répertoire de Françoise Hardy, à l'aura puissante. Alors cela faisait longtemps que le Printemps de Bourges désirait cet hommage. On va écouter le directeur du festival, Boris Vedel.
Alors Françoise Hardy est très attentive à cette création. Vous savez qu'elle est malade, elle s'en cache pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que l'un des derniers messages qu'elle nous est transmis, c'est « mettez-y de l'humour ». Voilà, il y a un répertoire, il y a des chansons. Elle prend la parole pour d'autres sujets, plus graves, et qu'elle parle d'humour, je trouve ça assez fascinant.
Si tu crois un jour que tu m'aimes.
Vous l'avez compris, des reprises de Françoise Hardy, mais cette sélection ne comprenait pas les chansons les plus connues de Françoise Hardy. Sage a décidé de mettre en avant des titres plus mélancoliques comme La Question, issue de l'album du même titre, hein, qui serait l'album préféré d'ailleurs de Françoise Hardy, et d'autres titres comme Un peu d'eau ou Ma jeunesse fout le camp.
Au départ, j'avais fait ma sélection de chansons et puis j'ai reçu un mail de Françoise Hardy m'envoyant une liste de 50 morceaux et me disant « Voici pour moi les 50 chansons que personne ne reprend jamais et qui doivent être absolument reprises. » Il n'y avait pas une seule que j'avais choisie. Et c'était que des chansons toutes plus obscures les unes que les autres et beaucoup de chansons qu'elle avait composées et écrites elle-même aussi. Et je pense qu'elle avait envie qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect-là de son art.
Voilà un hommage réussi face à un public très sage, presque hypnotisé. Un hommage touchant et gracieux à l'image de Françoise Hardy.
Et ce soir, donc, un autre hommage, cette fois-ci à Bob Dylan, avec la chanteuse américaine Cat Power. Le Printemps de Bourges, c'est donc jusqu'à dimanche. On rappelle d'ailleurs, Omblin,
oui,
que Bourges va bientôt rayonner plus encore, puisqu'on sait maintenant que la ville sera capitale européenne.
Absolument.
De la culture. Rendez-vous pour cela en 2028. Ça va arriver vite. Merci Marie Jiquel. 5h57, merci d'avoir choisi Europe 1. Le journal de 6h et la météo dans un instant.
Votre interview éco, Alexandre Lemaire, ce sera 6h40.
Eh bien, on va s'intéresser penser à ce nuage noir menaçant qui plane sur notre industrie pharmaceutique. Biogarant, notre géant des médicaments génériques, pourrait bientôt passer sous pavillon étranger. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Les Républicains, en tout cas, en appellent au président de la République pour empêcher cette vente. Ils ont écrit au chef de l'État pour lui dire. On sera à 7h20 avec le député Les Républicains, Yannick Noeder.
Après le journal, les trois articles du Pressing, la revue de presse d'Europe 1, bonjour, focus notamment sur Paris Match qui a 75 ans.
Mais à 6h20, votre partition, Blin.
Un chanteur qui a foulé le public féminin au début des années 70. Regard de braise, une mâchoire carrée, une voix puissante, surtout Mike Brandt dans 20 minutes.
Je sais pas pourquoi je vous le vois le reprendre au karaoké, là. J'ai une image.
Très fort. Très faux.
Très, très fort. Très, très faux. Bah, non, mais non, très, très fort. À tout à l'heure, Robin Roche. Le temps pour ce lundi, pour ce jeudi, Anissa Dadi.
Jeudi.
Oui, on est déjà jeudi. C'est un jeudi. Hélas, pluvieux qui nous attend encore.
Oui, dès ce matin, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne, en passant par l'Occitanie, le ciel est très couvert avec des averses qui deviennent de plus en plus fréquentes. On a même des flocons sur le massif central à partir de 1000 mètres d'altitude. Cet après-midi, les nombreux nuages vont vraiment recouvrir l'ensemble du pays. C'est nuageux partout. On aura même des nuages jusqu'au centre Val-de-Loire. Mais attention, entre la région parisienne et la Bourgogne, là, on retrouvera quelques éclaircies. Dans le sud, du Roussillon jusqu'à la Provence, Alpes, Côte d'Azur. La journée s'annonce très ensoleillée. Attention en Corse où on a encore des averses aujourd'hui et quelques flocons en montagne. Ça souffle aussi, hein, jusqu'à 70 km/h en rafale ce matin. Sur le reste du pays, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, on n'a plus de gelée. On a 0 degré à Charleville-Mézières et Besançon, 1 degré à Chambéry, 6 à Paris, 12 à Bastia. Et cet après-midi aussi, léger redoux, que des températures au-dessus de 10 degrés, mais aucune au-dessus de 20. 10 à 19 degrés, 10 à Aurillac, 19 à Nîmes et 14 degrés à Paris.